Toujours notre héros de la semaine, on va le retrouver au plus profond de son intimité musicale, le blues. Applaudissements pour Eric Clapton, ceux d'un petit public de proches réunis sur le plateau d'un studio de télévision à Windsor. C'est la ville où se trouve la résidence royale à l'ouest de Londres. C'était il y a plus de 25 ans déjà, début 1992, pour les besoins d'une captation filmée et d'un enregistrement. La chanson « Nobody knows you when you're down and out »,« Personne te connaît quand t'es dans la dèche », c'est un blues qui a été écrit durant la grande dépression des années 30, le blues d'un millionnaire qui a tout perdu, bah oui ça arrive, et qui découvre qu'il a plus d'amis, aux surprises. Bessie Smith a fait connaître cette chanson, Nina Simone l'a popularisée, et pour ce concert en toute intimité, l'enregistrement s'appelle simplement Unplugged, débranché, c'était la mode à l'époque, et bien Clapton était simplement accompagné par deux musiciens, l'anglais Andy Fairweatherlow à la guitare sèche et à la mandoline, et l'américain Nathan East, un musicien de jazz à la source, à la contrebasse, puis il y avait aussi deux choristes féminines, et c'était absolument tout. Dans cet album Unplugged, beaucoup ont découvert une chanson dont seuls les connaisseurs de Clapton, plus âgés, étaient familiers parce qu'elle n'avait pas été franchement un tube à sa sortie en 1970, Layla. Alors je vous en ai longuement parlé hier soir sur France Inter, bien sûr. Et on l'entendait partout, Leïla, cette chanson, en cette année 92, et on n'a pas cessé de l'entendre depuis. Ça a été pour Eric Clapton une sorte de renaissance, vraiment. Il avait alors 47 ans, et il faut dire ce qui est, ses albums et ses tournées des années 80 n'avaient pas suscité de grandes passions. Il s'était tourné vers des musiques de films où il ne s'exposait guère. Certes, on allait écouter Clapton, c'était déjà un monument, le survivant d'une époque légendaire, une sorte de trésor mondial vivant, enfin tout ce que vous voudrez, mais on attendait plus grand-chose de lui, ce qui est peut-être la pire chose qui puisse arriver à un musicien et d'ailleurs en général à un artiste. Mais grâce à Leïla et à cet album Unplugged, il y avait aussi une cassette vidéo, un VHS à l'époque qui circulait, eh bien Clapton a touché en plein cœur un public qui, jusque-là, s'intéressait à lui d'assez loin. Unplugged a en effet remporté 6 Grammy Awards et s'est vendu dans le monde à 26 millions d'exemplaires. En Allemagne, ça doit être un des albums qui s'est le plus vendu de toute l'histoire de l'industrie du disque. En France, l'album a été certifié double platine, ce qui, en ces temps reculés où l'on achetait encore des disques en masse, ça signifiait 600 000 exemplaires vendus. Alors pourquoi cet engouement collectif pour Clapton? Eh bien, la source de cette renaissance artistique, comme je vous disais, chez Clapton, eh bien, il y a eu un drame, une des pires choses qui puisse arriver à un parent. Au printemps 1991, Connor, le petit garçon de 4 ans que lui avait donné sa jeune femme italienne, Laurie Del Santo, a chuté d'un appartement situé au 53e étage d'une tour d'habitation à New York. Après ça, Clapton, qui pendant de longues années s'était enfoncé dans la drogue et dans l'alcool pour fuir son profond mal-être, a considéré que rien de pire ne pourrait jamais lui arriver dans la vie. Il a gagné une sorte de sérénité nouvelle, celle de ceux qui savent très tranquillement que chaque jour peut être le dernier et qu'il faut en profiter, et qui n'ont plus de temps à perdre et qui se concentrent sur l'essentiel. Alors bien sûr, on célèbre souvent le jeu de guitare de Clapton, sa virtuosité, tantôt sa rage, tantôt sa délicatesse, mais pas assez sa voix, parce que c'est un chanteur au très beau timbre, d'une rare sensibilité. Il y a toujours dans sa façon de chanter cette grâce particulière, propre aux timides qui se lancent. Il ne semble jamais tout à fait sûr de lui, et quand il y va, eh bien il y met toute sa sensibilité, toute son âme. Alors ce soir, on va se consacrer au Clapton intime, au Clapton chanteur de blues. Les titres que j'ai choisis pour le Very Good Trip de ce soir ont tous quelque chose de... oui, d'intime, de feutré. Je suis sûr qu'ils vont toucher celles et ceux qui n'ont des enregistrements de Clapton qu'une connaissance hâtive et superficielle. D'ailleurs, pour être parfaitement honnête, c'était aussi mon cas avant de préparer cette émission. Tout de suite, un des premiers blues qu'ait enregistré Eric Clapton, Ramblin' on My Mind, c'est un des titres, un des rares titres légués par le légendaire Robert Johnson, un des grands modèles de cette génération du blues anglais qui aujourd'hui d'ailleurs vit son crépuscule. Clapton l'a enregistré une toute première fois, il avait 20 ans, c'était avec les Blues Breakers de John Mayo, et cette version est issue donc de Ramblin' on My Mind, est issue du second album qu'il a publié en 2004. Second album à être entièrement dévolu au répertoire de Robert Johnson, Sessions for Robert J., la chanson Ramblin' on My Mind.
I got ramblin' all on my mind. I got rambling all on my mind. Hate to leave you here, babe, but you treat me so unkind. I got me things all on my mind. I got me things all on my mind. Hate to leave my baby, but she treats me so unkind. I'm going down to the station, catch that fast mail train I see. I'm going down to the station, catch that fast mail train I see. Got the blues by me so-and-so, and the sun's got the blues about me. And I'm leaving this morning, my heart fold up in crime. Lord, I'm leaving this morning with my heart fold up in crime. Hate to leave my baby, but she treats me so unkind. I got me things on my mind. Little girl, I got me things all on my mind. Hate to leave my baby, but you treat me so unkind.
Very Good Trip sur France Inter.
Thank you.
To the Highway, une des toutes premières chansons que Eric Clapton ait appris à jouer. Cette version qu'on vient d'entendre, il l'a interprétée en 2000 en duo avec un de ses maîtres, B.B. King. Je vous en dirai d'ailleurs deux mots tout à l'heure. Alors, en fait, cette chanson, c'est un certain Big Bill Brunzi qui l'interprétait. Eric Clapton était allé le voir à Londres tout gamin au milieu des années 50. C'était un chanteur et guitariste de Chicago qui avait éveillé bien des vocations. Paul McCartney lui-même l'avait découvert à la radio à Liverpool et avait appris par cœur certaines de ses chansons. Alors, ce Big Bill Brunzi, c'est un cas vraiment intéressant. Dans les années 30, à Chicago, il avait été un des premiers à se produire avec une section rythmique, c'est-à-dire contrebasse et batterie sommaire à l'époque. Seulement, le style de Brunzi s'est assez vite démodé avec l'arrivée à Chicago de Muddy Waters qui a imposé la guitare électrique. Alors Big Bill Brunzi a été très malin. Il a entendu dire qu'en Europe, enfin particulièrement à Paris et à Londres, il y avait tout un cercle de passionnés puristes, fascinés par le blues authentique des origines, en lequel ils voyaient une sorte d'ancêtre primitif du jazz, et donc ils voulaient entendre, connaître des musiciens de blues, entre guillemets, authentiques. Alors Brunzi, il s'est adapté de manière très pragmatique. Il s'est présenté armé d'une vieille guitare sèche cabossée, comme, je cite, un simple fermier noir du Sud, le dernier chanteur de blues vivant, et ils ont gobé. Les étudiants à lunettes, les snobs, les fumeurs de pipe en chemise à carreaux, ils ont adoré Big Bill Brunzi, si loin, bien sûr, du blues commercial, entre guillemets. Et comme le raconte Mick Jagger, tous les jeunes musiciens amateurs de son cercle, de passionnés de blues, étaient tous des snobs élitistes, assoiffés d'une pureté imaginaire, d'une authenticité fantasmatique, Clapton en tête. Et ce qui est extraordinaire chez les musiciens de cette génération, c'est qu'ils ont tous vécu leur rêve. Ils ont rencontré ces musiciens de blues qui, dans leur esprit, avaient vraiment édicté les tables de la loi. Ils les ont interviewés, ils ont cherché à tout savoir sur eux, ils les ont imités, célébrés, et puis, consécration ultime, ils ont joué avec eux. Alors, aujourd'hui, on a cette vision déformée, on parle de rockstar, de monstre sacré, de totem inaccessible. Il faut retenir que tous ces musiciens devenus célèbres, Keith Richards, Eric Clapton en tête, ils se considéraient avec une humilité qui n'avait rien d'artificiel, une humilité non feinte, comme des suiveurs, des passeurs, des missionnaires du blues, qui était presque une religion pour eux, en tout cas une vérité révélée, une vérité qui vous aide à surmonter la souffrance, la dureté de la condition humaine, à vous dépasser vous-même. Clapton, oui, a joué avec tous ces modèles, comme donc B.B. King, avec lequel il a enregistré un album en 2000 qui s'appelle Riding with the King et dont on vient d'entendre un extrait, la chanson Key to the Highway. Alors la vignette du CD illustre d'ailleurs à merveille ce que je viens de vous raconter. On y voit Clapton, en veston et cravate dénouée, conduire une décapotable. Il y a sa guitare qui est debout à côté de lui, posée en équilibre contre le siège du passager. Et puis derrière lui, bien calé dans son siège, le maître, B.B. King, en smoking et nœud papillon, sa guitare également posée à côté de lui et qui se laisse conduire par Clapton, son simple chauffeur. Clapton a enregistré ses produits sur scène avec B.B. King, bien sûr, mais puis aussi avec d'autres de ses modèles, à commencer par les deux essentiels, Freddie King et Otis Rush, un géant du blues dont, étrangement, la mort l'année dernière a été à peine remarquée. Ses propres interprétations à Clapton, ses propres interprétations du blues ont évidemment varié et évolué avec les années, gagnant en finesse et en sensibilité. Et cette interprétation du Walking Blues de Sunhouse, un guitariste et chanteur de blues qui a connu à peu près le même destin que Big Bill Brunzi, disparu et réapparu, est exemplaire. C'est un thème éternel, celui du vagabond errant qui saute dans un train de marchandises pour échapper à un destin tragique qui finira forcément par le rattraper.
This morning, feel round for my shoe. You know about that, babe. I had them all walking blue. woke up this morning, I feel around for my sheep. You know about that, baby. Ooh, Lord, I had them old walls. Leaving this morning, I have to go ride the blinds. I've been mistreated, I don't mind dying this morning. If I have to go ride the blinds, I've been mistreated, ooh, Lord, I don't mind. Tell me the walking blues ain't bad, the worst old feeling I most ever had. People tell me the old walking blues ain't bad. Well, it's a worst old feeling, ooh, Lord, I most ever had.
Gotta bust your brains out, baby. Ooh, it'll make you lose. your mind.
Stop Breaking Down, un classique de Robert Johnson qui a été repris maintes et maintes fois, notamment par les Rolling Stones. Il y a une excellente version qui figure dans l'album Exile on Main Street qui est paru donc en 72. Là, c'était Eric Clapton en 2004, l'enregistrement qui figure dans l'album Me and Mr. Johnson où il est accompagné par une petite formation. Toujours le fidèle Andy Fairweatherlow à la guitare, Nathan East à la contrebasse et le virtuose Steve Gadd à la batterie, ici dans un style, vous l'avez entendu, extrêmement sobre. Stop Breaking Down, c'est une chanson plutôt macho, un voyou qui se promène dans la rue, il croise une fille en larmes, il lui dit « Bon, arrête de chialer, moi j'ai de quoi te consoler ». Alors je sais pas si ça passerait très bien à l'époque de Me Too. Alors enfin, en tout cas, oui, Clapton a interprété de nombreux blues traditionnels qui ont toujours eu une résonance particulière avec son existence. En particulier celui-ci, Motherless Child, qui figure dans un des très bons albums de Clapton, From the Cradle, qui est sorti en 1994. Les paroles sont une confession d'un homme à une femme. Si je te traite pas bien, c'est pas parce que je veux te faire du mal. Il faut que tu comprennes que je suis un enfant qui a pas eu de mère. Alors c'est touchant parce que ça renvoie à la situation qu'a vécu réellement Clapton. Alors on le savait, mais le documentaire qui lui est consacré, Life in 12 Bars, signé Lily Finney Zanuck et qui sort aujourd'hui en salle au cinéma, jette sur l'enfance de Clapton un éclairage très cru. En fait, Clapton n'a pas été élevé par sa mère. Celle-ci, qui a été engrossée à l'âge de 16 ans par un soldat canadien disparu dans la nature, a carrément refusé de se présenter à son fils comme sa mère. Elle a confié l'éducation du garçon à sa propre mère et à son beau-père, en lesquels Clapton a vu très naturellement ses parents à lui. Quant à Pat, donc sa véritable mère, eh bien, il a longtemps cru qu'elle était simplement sa très grande sœur. Un beau jour, Pat donc est partie pour le Canada, où elle a rencontré un autre soldat avec lequel elle a eu d'autres enfants. Et puis elle est revenue en Angleterre quand Eric avait 9 ans, estimant que voilà, il était assez grand pour qu'on lui dise la vérité. Alors pour le garçon, vous imaginez, ça a été un choc terrible dont il s'est jamais vraiment remis. Il s'est réfugié dans son monde intérieur. Il a dessiné inlassablement des images d'abord de super-héros, de BD de science-fiction, des cosmonautes. Et puis il a découvert la guitare avec passion. Il s'est mis à dessiner plein de guitares à n'en plus finir. Il a recopié des images de musiciens de blues, des pochettes de disques. Et puis il jouait sans s'arrêter jusqu'au milieu de la nuit, épuisant la patience de ses grands-parents. Alors le film montre un épisode d'ailleurs assez déchirant. Eric, très jeune adolescent, est invité par sa mère en Allemagne, où son second mari est cantonné. Alors déjà, celle-ci refuse qu'il l'appelle maman. Et son beau-père, militaire, pour humilier le garçon, à l'âge où quand même bon, l'apparence compte beaucoup, lui fait carrément couper la boule à zéro. Et pour finir, son jeune demi-frère fait exprès de s'asseoir sur sa guitare pour la casser. Alors voilà, Motherless Child, c'est Eric Clapton.
If I mistreat you, girl, it sure don't mean no harm. If I mistreat you, girl, it sure don't mean no harm. Well, I'm a motherless child, I don't know right from wrong. Please tell me, pretty mama, honey, where'd you stay last night? Please tell me, pretty mama, honey, where'd you stay last night? Well, you didn't come home till the sun was shining bright. I have to go so far now, get my hand bones boiled. Have to go so far, girl, get my hand bones boiled. Well, he's had a lot of will, gonna let my hand bones boil. Well, I did more for you, girl, than your daddy ever done. your bottom dollar. One got together for another man. But I'm going to the river. Give me a tangle rocking chair. I'm going to the river. Give me a tangle rocking chair. And if the blues overtake me, gonna rock away from here.
Un joyeux folk blues proche du chant de marin, c'est un style un peu inhabituel pour Eric Clapton, un style plus proche du mouvement folk américain des années 60 que du blues des années 30 dans lequel il a si souvent puisé. San Francisco Bay Blues, c'est une chanson signée Jesse Fuller, une sorte d'homme orchestre qui a été connu à Los Angeles dans les années 20. En fait, c'est la seule chanson qu'il ait léguée à la postérité, mais elle a été reprise plein de fois par Paul McCartney aussi, c'est bien dans son style. On retrouve tout de suite Clapton en pleine forme vocale dans un album relativement récent qui s'appelle tout simplement Clapton. Un album qui est pas si vieux, il remonte à l'année 2010. Alors c'est électrique et amplifié, mais très retenu et très feutré. Et vous pouvez y entendre Clapton accompagné par un des meilleurs batteurs et percussionnistes américains, Jim Kaltner. La chanson, c'est un vieux blues, un de plus, Traveling Alone. Thank you.
out of dome. Nobody knows my trouble but the dear Lord above. Nobody knows my trouble but the dear Lord above. Do you know how I feel? You ever have been in love?
Inter.
Thank you.
Anyway, the Wind Blows, une collaboration de Eric Clapton avec J.J. Cale, hein, ce musicien originaire de l'Oklahoma, révélé à Los Angeles que Clapton a grandement contribué à faire connaître d'un vaste public. La chanson a été publiée en 2006 dans le cadre d'un excellent album signé en duo par Eric Clapton et J.J. Cale qui s'appelle The Road to Escondido. J.J. Cale, l'auteur de After Midnight, de Cocaine, deux chansons qu'a interprété Clapton dans les années 70. J.J. Cale avait un style laid back, hein, comme on disait, c'est-à-dire bien calé en arrière dans le fauteuil, tranquille, peinard, on pourrait dire. Sauf qu'il y avait chez lui aussi quelque chose de laconique et de pince sans rire qui montrait que cette bonhomie cachait un regard acéré et parfois même acerbe. Un style d'ailleurs qui a, entre parenthèses, beaucoup influencé Mark Knopfler du groupe Dire Straits. Alors maintenant, je vous propose d'écouter tout à fait autre chose, c'est Got You On My Mind, c'est un rhythm and blues au style légèrement chaloupé qui évoque la Nouvelle-Orléans. C'était interprété et joué par Clapton dans un album plutôt jazzy, paru en 2001, qui s'appelle Reptile. La chanson Got You On My Mind remonte au début des années 50, Big Joe Turner, Jerry Lee Lewis et Joe Tex l'ont interprété, et ben voilà, on va l'écouter tout de suite. Thank you. Got You On My Mind, un rhythm and blues interprété par Eric Clapton en 2001 dans un album qui s'appelait Reptile. Impossible de se quitter ce soir sans écouter un des sommets, sinon le sommet de toute l'œuvre enregistrée de Eric Clapton. Je veux parler de la chanson Tears in Heaven, hein, des larmes au paradis. C'est une chanson qu'il a coécrite avec le parolier américain Will Jennings et qu'il a magnifiquement interprétée pour le concert Unplugged de janvier 92, une chanson qui fait très précisément allusion au destin tragique de son petit garçon qu'il a perdu dans un accident mortel. Je vous en parlais tout à l'heure. Eric Clapton, Tears in Heaven.
Thank you.